France Inter, 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le lundi 14 septembre. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le premier reconfinement à l'échelle de tout un pays annoncé hier soir. Il prendra effet vendredi en Israël, où les chiffres de la circulation du virus sont en très nette hausse. En France, des mesures devraient être annoncées à Marseille et Bordeaux. On voit ça en détail, Agnès, après les autres titres.
Des députés qui font leur rentrée et qui sont partagés sur le bien-être animal entre le lobby des chasseurs et la pression des écologistes. Le président biélorusse va demander de l'aide à Vladimir Poutine, mais en échange de quoi? Et puis la victoire de l'OM hier soir face au PSG, un classico qui tourne au fiasco.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50, Léa.
On l'a découverte avec les chatouilles, la pièce, puis le film où elle racontait le viol qu'elle a subi, qu'elle avait subi enfant par un ami de la famille. Elle revient aujourd'hui avec une série de livres pour enfants, pour les aider à parler de tout sans tabou. L'étonnante, la bouillonnante actrice et metteur en scène Andréa Bescon sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, Léa. 8h20, nous retrouvons pour le grand entretien de la matinale avec le député européen Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
Cette fois, ça y est, la deuxième vague est arrivée. Le terme est employé officiellement en Autriche, au Venezuela. Les cours repassent à distance au moins jusqu'en janvier 2021. Les rassemblements publics et privés sont désormais limités à 6 personnes en Angleterre. Et en Israël, donc, est le premier pays à reconfiner sa population pour au moins 3 semaines. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant permanent de France Inter à Jérusalem. Frédéric, la situation est réellement critique en Israël ?
Alors, d'un point de vue sanitaire, oui. Ici, la deuxième vague a été bien plus virulente que la première. On avait eu seulement 300 morts sur la période mi-mars, mi-juin. Mais sur une même durée, entre mi-juin et mi-septembre, il y a eu 819 décès et des dizaines de milliers de nouveaux cas, notamment chez les Arabes et les Juifs ultra-orthodoxes. Les autorités affirment que les hôpitaux sont proches de la saturation et qu'il ne faut pas épuiser les personnels soignants. D'un point de vue économique, le Premier ministre Netanyahou explique que la récession en Israël est moins grave qu'en Europe ou aux États-Unis et donc que le pays peut se permettre ce reconfinement. Interdiction de sortir à plus de 500 mètres de son domicile, télétravail, restaurant fermé sauf pour la vente à emporter, école fermée pour un mois, comment les gens vont-ils réagir? Ici, l'envolée du chômage a été bien plus forte qu'en France, par exemple, et surtout, les Israéliens juifs ne pourront pas célébrer les grandes fêtes en famille ou entre amis, la nouvelle année le week-end prochain et Kippour dans 2 semaines. Le coût psychologique et moral de ce reconfinement risque d'être très élevé.
Merci Frédéric Mettezo en direct de Jérusalem ce matin pour France Inter. En Italie au contraire, c'est aujourd'hui la rentrée des classes pour la majorité des élèves après 6 mois à la maison. Mais une rentrée chaotique avec un nombre d'enseignants en nombre insuffisant. Nous serons en direct de Rome dans le journal de 8h. En France, 7183 nouveaux cas recensés en 24 heures, avec 66 nouveaux foyers de contamination, dont un au sein de l'université Rennes 1, 43 cas de coronavirus recensés ce week-end à l'issue de plusieurs soirées d'intégration. Les élèves de 2e et de 3e année en médecine, en pharmacie et en dentaire sont priés de rester chez eux. Et puis, 3 territoires inquiètent particulièrement les autorités, la Guadeloupe, Marseille et Bordeaux. Les préfets doivent annoncer dans la journée des mesures concrètes pour limiter la circulation du virus. Alors dans quel état d'esprit sont les Girondins? C'est un reportage de Noémie Bonin.
De nouvelles mesures restrictives, Alan et Chloé ne seraient pas contre au vu de ce qu'ils constatent depuis quelques temps.
Moi je suis éboueur de la nuit et je vois beaucoup de monde agglutiné. C'est vrai que les ports du masque n'est pas forcément respecté. Surtout le jeudi soir, hein, on se demande pourquoi.
À soirée étudiante, c'est n'importe quoi.
Ça n'existe plus les distanciations. Hein.
Dans le centre-ville de Bordeaux, les terrasses sont pleines, on flâne, on profite, surtout avec les températures très douces ces jours-ci. La mesure qui préoccupe donc les gérants de bars et restaurants, ce serait de devoir fermer plus tôt. Benjamin s'alarme déjà pour les chiffres de son établissement.
Ah ben oui, ça inquiète parce que ça nous fait perdre des clients potentiels. Donc déjà là, les gens ont peur. Donc forcément, si on dit de fermer le restaurant à 22h, ça va les inquiéter encore plus.
On sort des rues piétonnes et le long de la Garonne, il y a du monde, notamment autour du miroir d'eau.
On n'est pas plus de 10 là, donc ça va.
Ouais. Un groupe d'étudiants prend l'apéritif assis dans l'herbe.
On n'a pas le choix et vaut mieux nous protéger, nous, et faire bonne figure.
Tous prennent conscience que la relative insouciance de l'été est bel et bien en train de disparaître.
Et puis à Marseille, Renaud Muselier, le président LR de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a réclamé hier la fermeture des plages et des parcs à partir de 20h, l'interdiction des fêtes de mariage et une limite de 20 personnes maximum pour les enterrements.
Il est 7h05, Agnès, rentrée parlementaire décidément très chargée.
Les députés vont devoir se pencher effectivement à partir de demain sur le budget, le plan de relance, le projet de loi sur les séparatismes, les néonicotinoïdes, la transformation du Conseil économique, social et environnemental. Et un autre dossier pourrait bien s'inviter à l'Assemblée, le bien-être animal. La pétition en ligne lancée en juillet dernier pour réclamer un référendum d'initiative partagée a recueilli plus de 685 000 signatures. 141 députés et sénateurs sont favorables à une proposition de loi, mais le compteur semble aujourd'hui au point mort. Cécilia Arbonnat.
Soutenir ce référendum, c'est s'engager à dire stop à l'élevage intensif ou encore terminer la chasse dite traditionnelle. Loïc Dombreval, député La République En Marche des Alpes-Maritimes.
Moi, je suis un veto de formation. Les animaux, je vis avec depuis que je suis gamin. J'ai une approche scientifique rationnelle. On ne peut pas, dans un pays développé, traiter parfois avec autant d'inhumanité les animaux. Mais moi, je dis à mes collègues parlementaires, je leur dis, que craignez-vous ?
Ils craignent de se mettre à dos une partie de leurs électeurs en circonscription, résume Éric Diard, député Les Républicains des Bouches-du-Rhône.
Il y a cette pression de la part de certains lobbies pour dire ne signez pas, sinon vous n'allez pas être réélu. Il faut le dire clairement, on le sait très bien, c'est Willy Schren qui envoie ses équipes.
Willy Schren, c'est l'influent président de la Fédération nationale des chasseurs. Il a aussi ses entrées au Sénat. Arnaud Bazin, sénateur LR du Val-d'Oise.
Le référendum d'initiative populaire ne nous paraît pas le bon outil. Et on ne peut pas demander à un parlementaire de se dessaisir de ses responsabilités, de ses compétences.
Ces élus sont soumis aussi à la pression des agriculteurs, la FNSEA ayant demandé à ses adhérents d'enrayer la dynamique de signature.
Cécilia Arbonnat. Et puis cette nuit, 21 000 poulets sont morts asphyxiés dans l'incendie d'un entrepôt situé sur le territoire de la commune Les Mars dans la Creuse. Ce sont nos confrères de France Bleu Creuse qui nous font part de cette information. C'est une partie du tentaculaire dossier du Mediator, ce médicament des laboratoires Servier, accusé d'avoir causé la mort de 500 à 2000 personnes, qui est examiné à partir d'aujourd'hui en correctionnel à Paris. Il s'agit du volet trafic d'influence où l'on retrouve le numéro 2 des laboratoires, mais aussi une ancienne sénatrice, Corinne Audouin.
En janvier 2011, le scandale du Mediator vient d'éclater quand le Sénat lance une mission d'information. Sa rapporteuse est la sénatrice UMP, Marie-Thérèse Hermange. Elle est amie avec Claude Grisselli, professeur de médecine, devenu consultant des laboratoires Servier. Avant et après les auditions, la sénatrice et le consultant se téléphonent fréquemment. La sénatrice demande des précisions sur le Mediator, sur sa proximité avec les amphétamines. De son côté, Claude Grisselli est en contact permanent avec les dirigeants de Servier. Ce petit manège se concrétise un soir de juin 2011. Claude Grisselli se rend au Sénat pendant que Marie-Thérèse Hermange rédige son rapport. « J'ai fait changer pas mal de choses », se vante-t-il ensuite auprès du numéro 2 des laboratoires. Confronté à ses écoutes, Claude Grisselli a assuré que les changements dans le rapport étaient mineurs. Les modifications portaient notamment sur l'évaluation du nombre de morts dues au Mediator. Quant à la sénatrice, elle a dit ignorer que Claude Grisselli travaillait pour Servier. Elle n'avait informé aucun membre de la mission de ces échanges.
Ce procès doit durer une semaine et le jugement de toute l'affaire Mediator sera rendu le 29 mars 2021.
Il est 7h09, Agnès. Le président biélorusse va chercher de l'aide à Moscou.
Car l'opposition ne faiblit pas. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont encore manifesté hier soir à Minsk, comme tous les week-ends depuis l'élection présidentielle du 9 août et la réélection contestée d'Alexandre Loukachenko. Les interpellations se multiplient, 400 pour la seule journée d'hier. Mais le président biélorusse apparaît de plus en plus fragilisé. Correspondance à Moscou, signé Claude Brouillot.
Alexandre Loukachenko
Loukachenko va devoir céder aujourd'hui à Vladimir Poutine sur ce qu'il avait réussi jusque-là à refuser plus ou moins en termes de souveraineté. L'ampleur de la manifestation hier dans la capitale de la Biélorussie fait de Loukachenko plus que jamais un leader affaibli par 5 semaines de démonstrations pourtant pacifiques, réprimées comme hier encore avec dureté. Dans de telles conditions, le Kremlin ne va pas rater une telle occasion de monnayer son soutien au président biélorusse, surtout soucieux de rester au pouvoir. La feuille de route risque d'être à sens unique. Alexandre Loukachenko essaiera bien encore de mettre en avant des tarifs préférentiels sur les importations de gaz et de pétrole. L'essentiel est ailleurs. L'intégration de la Biélorussie risque de connaître un coup d'accélérateur vers l'unification économique, avec une accentuation sur le plan douanier et fiscal, avant que ne se posent à nouveau les questions de défense, telles que la création d'une base russe en Biélorussie. Avec une interrogation toutefois, jusqu'où les habitants de Minsk et des grandes villes biélorusses, qui veulent majoritairement rester maîtres de leur destin, sont-ils prêts à accepter cette intégration stratégique planifiée par le Kremlin ? Moscou, Claude Bruyot, France Inter.
Donald Trump attendu en Californie, où les incendies continuent de faire rage. Le président devrait insister sur la mauvaise gestion des forêts dans ces états de l'Oregon, de Washington et de Californie, contrôlés par ses adversaires démocrates. Des adversaires qui lui reprochent de nier le changement climatique. 2 millions d'hectares sont partis en fumée. On compte 35 morts et encore des dizaines de personnes portées disparues. En bref, encore une visioconférence Chine-Union européenne aujourd'hui. Les Européens réclament des règles de concurrence équitables. Il sera aussi question de neutralité carbone. Les Européens réclament notamment l'arrêt de construction de centrales à charbon en Chine. L'espoir ne m'a jamais quitté. La déclaration émouvante cette nuit de Dominic Thiem, qui remporte son premier tournoi du Grand Chelem après 3 finales perdues. L'Autrichien s'est imposé à l'US Open à l'issue d'une finale très disputée. L'Allemand Zverev avait remporté les 2 premiers sets avant de s'incliner. Et puis ses jours de repos sur le Tour de France, mais tous les coureurs vont devoir passer un test Covid avant de pouvoir reprendre la route pour Paris. Enfin, des banderoles homophobes avant la rencontre, des accusations de propos racistes entre joueurs et des gifles qui volent en fin de match. Un PSG-OM de haute volée hier soir pour la 3e journée de Ligue 1. Sur le plan sportif, on retiendra la première victoire des Marseillais à Paris depuis 9 ans, grâce à un but de Florian Thauvin. Pour le reste, 17 cartons dont 5 rouges et une bagarre générale donc sur le terrain. Qu'importe pour les Marseillais qui ont fêté la victoire dans les vestiaires et sur le Vieux-Port. Bruno Blanza.
De l'argentin Dario Benedetto qui se lâche en espagnol, sa langue natale, à Dimitri Payet, enceinte sur l'épaule, ou Jordan Amavi et bien d'autres qui sautent sur la table de leur vestiaire encore en crampons. Les Marseillais fêtent comme rarement ce succès de prestige. Un véritable exploit même selon leur entraîneur André Villas-Boas. Un technicien désormais tout près d'avoir sa statue sur le Vieux-Port suite à ce premier classico remporté depuis 9 ans et après 18 tentatives marseillaises pleines de regrets. Une victoire sans la manière, mais avec courage, solidarité et sang-froid, tout l'inverse de Parisiens énervés et provocateurs. Héros parmi les héros, Florian Thauvin et son but du plat du pied gauche à la demi-heure de jeu savoure.
Du bonheur, franchement, du bonheur, ça fait plaisir. C'est la victoire d'un club, la victoire d'un peuple. Ouais, on s'est battu, franchement, du début à la fin, c'était un match compliqué parce qu'on a beaucoup couru, on a fait que défendre. Et ça a payé aujourd'hui.
Pendant que les footballeurs marseillais se lâchent dans leur vestiaire, leurs supporters, eux, s'éclatent sur la canne-bière. Et fêtent ce classico qui a déjà une place à part dans l'histoire de l'OM.
Effectivement, reportage de Bruno Blanza à Marseille.
Merci Agnès Soubirand.